Vous écoutez
RMC.
Il est 8h. Très joyeux Noël à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Pas de visa américain pour Thierry Breton, l'ancien commissaire européen interdit d'entrer aux États-Unis, sanctionné par Washington pour son rôle dans la régulation des géants du numérique. Un industriel français à la rescousse de l'usine Brandt d'Orléans, un projet annoncé dans la matinée près de deux semaines après la liquidation du fabricant d'électroménager. Et puis dans la famille Zidane, je demande le fils cadet, Lucas Zidane, pourrait jouer sa première sélection en grande compétition avec l'Algérie à la CAN cet après-midi, match contre le Soudan.
Mais d'abord, plus que quelques heures avant le réveillon de Noël.
Et oui, encore un peu de patience et de travail, peut-être les derniers cadeaux à acheter. Et surtout, le repas à préparer, c'est la dernière ligne droite. Lucille Pascanet, vous êtes en direct des Halles du Marché-Gare à Strasbourg, où les commerçants s'apprêtent à vivre la journée la plus chargée de l'année.
Oui, leurs premiers clients sont arrivés dès l'ouverture ce matin à 7h pile. Parmi eux, Georgette, retraitée, elle fait tous les ans ses courses du réveillon le 24 décembre très tôt. Et ce matin, elle a rempli son panier de douceur pour sa table de ce soir.
J'attends le dernier moment, comme ça tout est frais.
Et qu'est-ce que vous avez pris ce matin?
Alors, un assortiment de pâtisserie, parce que ma famille n'est pas très bûche, et surtout du bon pain.
C'est ça le plus important. Est-ce que vous avez acheté d'autres choses? Est-ce que vous allez acheter de la viande? Est-ce que vous allez acheter des légumes aujourd'hui, ou tout est déjà prêt?
Non, ça s'est fait en début de semaine, je l'ai fait ici.
Bon, Georgette a déjà fait son choix de volaille, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de Français. Jean-Noël Friedrich, charcutier traiteur, achalandait tout à l'heure son étal pour les nombreux retardataires.
Oui, toujours, les clients se prennent de plus en plus tard, ils n'anticipent pas trop, mais on essaye toujours d'en avoir pour tout le monde. Après, il n'y a pas de souci, on trouvera toujours quelque chose pour contenter les clients. Bah, aujourd'hui, je pense qu'on va sortir pas mal de foie gras, toutes les volailles encore qui restent. On a beaucoup de caviar, on a les huîtres qui vont sortir, les Saint-Jacques, les crevettes, les gambas. Il y aura pas mal de choix, effectivement.
Bon, il l'assure, il y en aura pour tous les clients qui sont déjà nombreux ce matin. Il y a la queue à presque tous les étals. Le marché les accueillera pour leurs derniers achats jusqu'à 14h.
Lucille Pascanet en direct du Marché-Gare de Strasbourg. Les cadeaux de Noël qui n'arriveront peut-être pas à temps pour être au pied du sapin. Les services de la Poste encore perturbés par la cyberattaque, toujours en cours. Même si elle a perdu en intensité depuis lundi, dit le groupe qui a porté plainte. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure est saisie. L'attaque est revendiquée par des hackers pro-russes. Noël sous sécurité renforcée. 10 jours après l'attaque antisémite à Sydney en Australie, en France, une menace terroriste. Guillaume Biet, chef du service police-justice, les autorités appellent à la plus grande vigilance.
Oui, dans un télégramme officiel adressé à tous les préfets de France, le ministre de l'Intérieur évoque d'emblée, je cite, le niveau très élevé de la menace terroriste qui exige, selon lui, le maintien d'une extrême attention vis-à-vis des lieux de culte et des cérémonies religieuses. Voilà pourquoi ces derniers jours, dans chaque département, les préfets ont adapté leur dispositif en fonction des événements prévus et mis en place des patrouilles visibles et dissuasives aux heures des célébrations tout à l'heure, notamment à l'arrivée et au départ des fidèles, si besoin, en modifiant la circulation en coopération avec les maires. Tout comme en accord avec les procureurs locaux, les forces de l'ordre pourront contrôler les identités, fouiller les sacs ou les véhicules, appuyés également par la présence des militaires de la force Sentinelle.
Guillaume Biet, chef du service police-justice d'RMC. Il n'est plus le bienvenu aux États-Unis. L'ancien commissaire européen Thierry Breton interdit de visa avec 4 autres personnalités européennes. Antoine Hollard, correspondant d'RMC et de BFM TV à Washington. L'administration Trump l'accuse de censure.
Oui, en fait, ça fait un moment que Thierry Breton est dans le viseur des patrons de la tech, à commencer par Elon Musk qui le déteste. Son tort, c'est d'avoir pris, quand il était commissaire européen, des mesures extrêmement strictes pour encadrer les activités des géants du web, pour les obliger notamment à lutter contre la haine en ligne ou la désinformation. Ces mesures coûtent beaucoup d'argent aux plateformes américaines. Il y a quelques semaines, par exemple, l'UE a infligé une amende de 140 millions à X, la plateforme d'Elon Musk. Et aujourd'hui, eh bien, les Américains se vengent. Alors, officiellement, l'administration Trump explique que Thierry Breton s'est rendu coupable d'une censure intolérable contre les intérêts américains, mais clairement, il s'agit d'une mesure vexatoire. Le Français se retrouve sur la liste noire des personnes interdites de séjour aux États-Unis, au même titre que des terroristes de l'État islamique ou des trafiquants de drogue. C'est aussi, pour Washington, une façon d'intimider les Européens. Marco Rubio, le chef de la diplomatie, dit que d'autres personnalités pourraient être ajoutées à cette liste. Tout ça dans un contexte où Donald Trump multiplie les attaques contre l'Union européenne et fait pression pour que l'Europe abandonne ses réglementations contre les géants du web.
Thierry Breton qui a réagi sur son compte X et dénonce un vent de maccartisme, référence à la chasse aux sorcières anticommunistes aux États-Unis dans les années 50, sanction aussi dénoncée par le ministère des Affaires étrangères. Un rebondissement inespéré pour Brandt, son usine d'Orléans pourrait être reprise près de 2 semaines après la liquidation du fabricant d'électroménagers. Un projet sera présenté en fin de matinée, 11h, par un industriel français, annonce la mairie, qui parle d'une solution crédible et ambitieuse. Célestin Bougère en direct avec nous ce matin, un industriel dont on ne connaît pas encore l'identité.
Oui, on sait seulement que c'est un industriel français avec une solide expérience nationale et internationale, d'après la mairie d'Orléans, qui indique que le projet de reprise vise la réindustrialisation du site de Saint-Jean-de-la-Ruelle dans l'agglomération orléanaise et le réemploi des salariés. Il n'est toutefois pas précisé si les 350 ouvriers de l'usine sont concernés par ce projet de reprise et s'ils conserveront tous leur emploi. Le ministère de l'économie a lui appelé à ne pas se précipiter. Il assure poursuivre ses consultations auprès des élus et des repreneurs potentiels. L'objectif, avoir le projet le plus solide et le plus pérenne possible. Un appel d'offres pour la reprise de l'usine doit justement être lancé courant janvier, a précisé Bercy. Après l'annonce de la liquidation de Brandt le 11 décembre dernier, le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, avait souligné qu'un projet industriel restait possible, mais pas forcément dans le secteur de l'électroménager.
Les précisions de Célestin Bougère pour RMC. La loi spéciale définitivement adoptée par le Parlement pour faire fonctionner le pays sans budget, mais le gouvernement n'a pas dit son dernier mot. Sébastien Lecornu se dit persuadé de pouvoir aboutir à un accord en janvier à la reprise des discussions budgétaires. Le Premier ministre, qui dans une allocution télévisée hier a aussi dévoilé sa feuille de route pour les prochains mois, avec un projet de loi qui doit permettre de rassembler les aides sociales en une seule, une allocation sociale unique pour lutter contre la fraude sociale, pour garantir aussi que les revenus du travail soit toujours plus important que ceux de la solidarité, dit-il, argument pourtant contredit par une récente étude de l'OFCE, Lucas Laubert.
Oui, cette étude montre que les bénéficiaires de prestations sociales ont tout à gagner à reprendre une activité professionnelle. Prenons l'exemple d'une personne seule, sans activité. Elle perçoit au total 851 euros d'aide, selon les calculs de l'étude. En reprenant un emploi au SMIC, son revenu disponible, comprenant salaire et aide, doublerait presque, avec plus de 1600 euros. Même un mi-temps au SMIC rapporte plus que les aides, pointe l'étude. Guillaume Allègre en est l'un des deux auteurs. Selon l'économiste, l'idée que les bénéficiaires puissent gagner plus que des travailleurs n'est qu'une vieille idée reçue.
Dans tous les cas de figure que l'on montre, les chiffres montrent le contraire, qu'on ait 0, 1, 2, 3 enfants, qu'on vit en couple, que son conjoint est un chômeur, qu'il ait un revenu au SMIC. Quand on montre ça même à des économistes, des personnes qui devraient savoir, parfois on a l'impression de les surprendre.
Un retour à l'emploi d'autant plus intéressant que les salaires peuvent vite augmenter, souligne l'expert. 5 ans après la reprise du travail, les travailleurs gagnent 20% de plus en moyenne.
Il faisait partie des 4 blessés de l'explosion d'une usine chimique près de Lyon à Saint-Fons lundi. Un homme de 47 ans est mort. Il est décédé des suites de ses brûlures. En Russie, 2 policiers tués cette nuit à Moscou par un engin explosif alors qu'ils inspectaient les lieux où un général russe est mort il y a 2 jours. Ils tentaient d'arrêter une personne suspecte.
Le fils Zidane peut être sur le terrain aujourd'hui pour le premier match de l'Algérie à la CAN.
Les Fennecs lancent leur compétition contre le Soudan à 16h et il y aura peut-être donc dans les cages un certain Zidane, Lucas Zidane, fils cadet de Zizou, qui a rejoint la sélection algérienne il y a 2 mois. Ce pourrait être sa première sélection dans une grande compétition. Et c'est un événement, Nicolas Pelletier et Valentin Lorca.
Oui, depuis son arrivée en sélection en octobre dernier, Lucas Zidane est devenu la curiosité de cette équipe algérienne.
Pour nous, c'est un Zidane qui vient jouer naturellement dans son pays.
Smaïl Mohamed, journaliste pour le quotidien algérien Compétition.
C'est un gardien de but, c'est tout à fait différent. Il a montré qu'il avait cette préférence pour l'Algérie et le peuple, on est content.
Depuis 24 heures, les journaux algériens sont en boucle sur le gardien de l'équipe nationale. Le capitaine Riyad Mahrez balaie l'idée d'un traitement spécial pour le fils de Zizou.
C'est vrai que son nom, il est lourd à porter, mais bon, il se prend pas la tête, il est bien intégré avec nous et il est content.
Passion oblige, les supporters des Fennecs sont nombreux à Rabat et forcément, le nom de Zidane ne laisse pas indifférent.
Là, c'est le moment de se faire un nom. Après, il faut se faire un nom à part parce que forcément, il va avoir la pression au vu de le nom de famille qu'il a.
Il va aussi, on va dire, faire arrêter ceux qui l'ont critiqué parce que apparemment, il a choisi l'Algérie pour la Coupe du Monde, mais je pense qu'il a sa place.
Ce soir, de nombreux supporters regarderont la tribune officielle avec attention, au cas où Zizou ferait une apparition pour voir le premier match dans une grande compétition de son fils.
Match à 16h à vivre sur RMC, radio officielle de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Le journal de Clara Gabillet, il est 8h09 et on part au bord de la mer dans les Bouches-du-Rhône retrouver Daniel. Bonjour Daniel.
Ostriculteur, je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes sur le bateau ou à quai au moment où on se parle, mais vous êtes en tout cas à Port-Saint-Louis-du-Rhône. En cette journée, j'imagine que vous êtes c'est d'abord sur le pont évidemment, puisque s'il y a bien un jour où on rêve tous de manger des huîtres, c'est aujourd'hui.
Eh ben, c'est exactement ça. Je viens tout juste d'enlever les gants. On est en plein écaillage ce matin. Donc, c'est plus le moment d'aller à la mer pour récolter les huîtres. Après l'heure, c'est plus l'heure, comme on dit.
Ok. Donc là, aujourd'hui, vous les mettez dans les cagettes?
Exactement. On les met dans les bourriches. On les ouvre, on les met sur les plateaux pour nos clients qui viennent directement récupérer à la ferme. Les produits et pour profiter d'un bon moment. C'est le moment de l'année où on va faire le plus gros chiffre. Donc, je voulais rebondir un petit peu sur les blocages qu'il y avait eu avec nos confrères agriculteurs.
Oui, parce que vous le dites, le mot ferme, c'est vrai qu'on oublie, mais ostréiculteurs, vous êtes vous-même les agriculteurs de la mer.
Exactement, vous avez employé le mot juste, on est des agriculteurs de la mer. On aurait aimé être beaucoup plus solidaires avec nos confrères, mais on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.
C'est un moment où cette
période-là, exactement.
C'est un moment trop important pour vous, mais les difficultés, vous y faites face aussi.
On y fait face et on a cette résilience, je pense, comme nos confrères agriculteurs, où on n'attend pas qu'on vienne nous trouver des solutions. On prend le taureau dans les cornes, comme on dit chez nous, pour avancer, pour aller de l'avant. Mais les consommateurs nous font confiance et jouent le jeu.
Ouais.
Je tenais à le préciser également.
Ça, vous le sentez, c'est-à-dire que, bon, alors en plus, l'huître, il y a quand même un côté aussi très français, c'est-à-dire qu'on consomme de l'huître française.
Cocorico, on consomme de l'huître française en France et on en exporte également énormément à l'étranger. On en exporte énormément, je pense que ça doit représenter plus de la consommation, de la production nationale doit être envoyée à l'export. Ça fait rayonner notre pays et c'est très important aussi. C'est très important à le garder en tête.
Ouais, on l'a en tête. Merci Daniel en tout cas d'avoir témoigné ce matin. Je suis très heureuse, je crois que c'est la première fois que je vous accueille à l'antenne, non Daniel?
C'est la première fois. Je vous écoute beaucoup, j'écoute énormément RMC. Je suis désolé, le matin je bosse un peu, donc le soir normalement.
Mais bien
parce que je suis sportif, j'aime bien le foot.
Mais je suis heureuse d'être avec vous aussi le matin de temps en temps, même si c'est le moment effectivement où ça bosse. Mais c'est une seule et même famille, RMC. Daniel, très belle journée à vous, elle va être intense effectivement. Et merci d'avoir rayonné et de faire rayonner aussi la France. Il est 8h12, on va parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec vous Pierre Rondeau, bonjour Pierre. Ce matin vous nous alertez, attention, on ne pourra plus faire de virements interbancaires à partir de ce soir.
Exactement, le système international SEPA va être mis sur pause entre aujourd'hui, mercredi 16h30 jusqu'au dimanche 28 décembre inclus. Alors pourquoi ? Parce que le système international de virements et son outil Target 2 ferment les week-ends et les jours fériés. Et là nous allons enchaîner le 25 décembre, jour férié dans tous les pays de l'Union Européenne. Le 26 décembre, le Boxing Day, jour férié dans les pays anglo-saxon, puis le week-end, 4 jours d'arrêt qui vont contraindre plus de 310 millions de clients. Si vous aviez besoin de faire un virement, de payer votre loyer ou de participer à une cagnotte pour Noël, tout sera mis à l'arrêt. Pire encore, si votre salaire devait tomber à la fin du mois, il ne tombera pas avant lundi prochain.
C'est quand même assez compliqué, ça peut poser des problèmes pour un certain nombre de salariés.
Alors techniquement, la chose est connue depuis longtemps. De nombreuses sociétés ont d'ailleurs décalé le versement des salaires au début de semaine, ou ont carrément fait des avances sur salaire. Si vous êtes concerné, anticipez bien ce changement, parce qu'il va avoir un décalage. Si vous touchiez votre salaire habituellement aux alentours du 28, et qu'il va tomber ce mois-ci, le 22, 23, en tout cas avant, de fait, il tombera plus tard le mois suivant, plus de 30 jours. Donc attention au découvert. De même, attention au prélèvement automatique de fin de mois, pris sur la carte bleue, comme un abonnement à Netflix ou à la salle de sport. Prévoyez des fonds sur votre compte.
Comment peut-on faire si là, on doit absolument en urgence faire un virement?
Alors pensez aux virements instantanés via certaines applications qui ne sont pas concernées par le système SEPA et qui restent opérationnels. Mais faites bien attention à ce type de virement. Ils sont instantanés, immédiats, donc aucun rappel de fonds possible, aucune annulation possible, aucune opposition. Quand c'est confirmé, c'est confirmé. Et si vous avez été victime d'une arnaque ou vous êtes trompé dans le destinataire, vous ne pourrez rien faire. D'ailleurs, la Banque de France le précise, c'est à consommer avec modération. Donc dans tous les cas, le meilleur conseil que je peux vous donner, faites tout ce matin après la matinale ou alors attendez lundi prochain.
Merci beaucoup Pierre Rondeau avec nous ce matin. Il est 8h14.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, on va se détendre avec Arnaud Demanche. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le député RN, membre de la commission des finances, Jean-Philippe Tanguy. Tiens, il était membre de cette commission mixte paritaire qui a littéralement explosé en vol au bout de 10 minutes et qui a fait capoter le budget. Il nous le racontera dans un instant. Et puis juste après, il y aura le meilleur de Nicolas Cantelou. Ça, c'est à 8h50 sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Il est 8h17 sur RMC. Alors Arnaud Demanche a pris quelques jours. Il revient en pleine forme à la rentrée. Mais en attendant, on vous en a gardé le meilleur. C'est tous les jours qu'il est avec nous, Arnaud Demanche. Salut Arnaud.
Bonjour à tous, bonjour et joyeux futur Noël les amis, puisque c'est bientôt Noël. Et chacun commence à préparer son réveillon. Chez Mathieu Béliard, on sélectionne le menu. Vous savez que Mathieu est amateur de grande cuisine. Cette année, il a décidé de se lancer dans une émulsion de chorizo en 7 expressions avec voile de paprika fumée. Donc hier, il faisait ses courses sur la dalle d'Argenteuil. Il était là, psst. T'as du protoxyde d'azote? C'est pour mon siphon à mousse. Ouais, tu veux pas des petites cuillères, un briquet et des seringues aussi? Ah bah si, ça va me permettre de faire mes verrines de crumble au parmesan fumé avec son chou d'aneth cryo concentré et sa poussière végétale de fenouil sauvage. Vas-y, c'est un malade ce mec. Et en plat principal, il y aura des pâtes, hein, parce qu'à un moment, faire des plats élaborés, ça commence à faire chier pour des mômes qui apprécient pas la bonne cuisine. Hein, tu leur amènes une endive en braisage inversé, laquée au miel de châtaignier en polycaramélisation et crème lactique de chèvre, et ils te réclament des knackis, ces petits bâtards. Il y a pas de venir. Ouf, courage Mathieu pour ce menu. Ça a l'air bon, hein, ceci. Allez, voyons ce que nous réserve aujourd'hui le calendrier de l'Avent du LOL. Ho, 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 qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un livre de Nicolas Sarkozy. Oh, il fallait pas. Non, vraiment, il fallait pas. C'est la sortie de Journal d'un prisonnier. 20 jours de détention, 20 euros. Wallen Sansal, il va nous sortir un bouquin à 300 balles. Bam, un dictionnaire. Alors, François Ruffin, dans une vidéo, reproche à Nicolas Sarkozy d'utiliser 1439 fois le pronom « je ». Oui, d'accord, mais en même temps, quand t'es tout seul en cellule, il n'y a pas beaucoup de personnages dans ton bouquin. Il n'allait pas inventer René l'araignée, à qui il se confie, quoi. Il est resté 20 jours. Il n'y a pas de quoi devenir dingue au point de parler aux araignées. Je suis parisien, hein. Même moi, je peux passer 20 jours sans dire bonjour à quelqu'un. Je suis sûr, c'est très possible. Alors, le quotidien en prison de Nicolas Sarkozy était consacré aux prières et à manger des yaourts. Voilà, prière et lactose, c'est pas une incarcération, Sarkozy, c'est un chaussé aux moines. Et il s'en prend à Emmanuel Macron. L'ancien président reproche au chef de l'État d'avoir détourné le regard lors de ses ennuis judiciaires. De toute façon, Macron, il détourne le regard sur plein de trucs. Là, il a détourné le regard sur la dépense publique pendant 9 ans. Macron, il détourne tellement le regard, il va finir par loucher. C'est plus le Mozart de la finance, c'est le Dalida des comptes publics. C'est... Hop là.
Sébastien Lecornu a affirmé, Arnaud, que le gouvernement souhaite mettre en place l'allocation sociale unique.
Oui, c'est-à-dire fusionner plusieurs prestations sociales comme le RSA ou la CAF. C'est une mesure faite pour draguer la droite. D'ailleurs, chers auditeurs, si vous aussi vous voulez draguer la droite ou quelqu'un de droite, faites comme Sébastien Lecornu. Allez en rendez-vous et... Ouf, ouf, ouf. Alors, j'ai pas de voix pour le cornu, donc j'ai pris Raymond Barre du Mauvais Show, ça embête personne. Je trouve qu'on dirait lui.
C'est pas mal.
Ouf, ouf, ouf. Tu sais, Marie-Catherine, je pense que l'allocation sociale unique, plafonnée à 70% du SMIC, permettrait de lutter contre la cistana. Oh, on ne m'avait jamais rien dit d'aussi excitant de ma vie, Sébastien. Mes parents versaillais vont t'adorer. Je suis si torride. Oh oui, dis-moi les gros mots. RSA, intermittent, oh sauvage encore, transition écologique, oh salaud, fais de moi ce que tu veux, je suis ta chose. J'ai vécu à Versailles, je sais que ça marche. Alors cette mesure était dans le programme d'Emmanuel Macron en 2017, et si elle est votée, bah, ça va le consoler un peu d'avoir perdu sa précieuse réforme des retraites, son précieux dont il déplore la perte, comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Depuis, il se balade tout nu dans les jardins de l'Elysée la nuit. Ma précieuse réforme, la gauche me l'a prise. Mais avec l'allocation unique, je vais pouvoir couper des aides sociales. Les pauvres vont mourir, la gauche va mourir, tout le monde doit mourir, sauf moi, tu l'es. Je vais rester à l'Elysée avec mon précieux bilan. C'est sensuel, alors... quelque part.
La proposition du RN de rouvrir les maisons closes continue de faire des barnaux.
Déjà que la France est en bordel, autant les rouvrir. Hein. Alors, Marine Le Pen soutient cette loi et c'est un retour aux sources pour elle. Souvenez-vous, son parrain, c'était Henri Bottet, alias Monsieur Éric, l'empereur de Pigalle, aussi surnommé Razmot. Vous vous souvenez de cette histoire? Non, Jean-Marie Le Pen avait nommé parrain de Marine Le Pen le plus grand proxénète des années 70. Quelle drôle d'idée. Un catholique pratiquant, vive la messe en latin, mais il prend pour parrain le roi des macros qui règne sur 2000 prostituées et qui a des copains braqueurs de banque. C'est vraiment comme Bolloré qui programme des émissions chrétiennes et juste derrière, il fout Jean-Marc Morandini qui a plus le droit d'approcher d'un mineur. Allez, c'est venir à moi les petits stagiaires. La pauvre Marine. Allez Marine, on va voir parrain. Et Zou, il emmène sa fille de 4 ans au Sixi Ploum Ploum. Elle se balade au milieu de gens tout nus qui disent « Oh, monsieur le secrétaire d'État, ça faisait longtemps !» Et elle voit des vieux énarques chauves et torse nus en caleçon rayé avec des fixes chaussettes comme dans Tintin. Voyez. Et des filles seins nus avec des plumes d'autruche. Non mais Apolline, vous auriez pas emmené vos enfants de 6 ans au cabaret du nichon qui fume ou au Ploum Ploum Sixi de Pigalle. Pas ceci dit, si vous voulez, pensez-y pour le week-end. Hein, c'est une activité sympa.
Tout à fait, nous sommes vendredi. Mais oui, des belles activités. Merci beaucoup Arnaud, qu'on retrouve tous les jours. Et oui, on le retrouve tous les jours, Arnaud de Manche. Il est l'heure.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Il est l'heure de ressortir le calendrier de l'Avent pour ouvrir la toute dernière case. C'est le moment de couvrir Séverine de cadeaux. Bonjour Séverine. Séverine,
oui,
vous
bonjour.
Nous entendez?
Ah bah
oui,
je suis
oui,
trop
oui,
contente.
Ah oh, bah c'est pas le moment oui, de pas nous entendre. Contente. Vous êtes là. Oh, Séverine, Séverine, oui, c'est l'heure. J'ai presque envie de vous chanter du Mariah Carey, mais je ne le ferai pas, c'est promis, Séverine. Vous êtes en Vendée.
Ah bah, si vous pouvez.
Oh, on va ouvrir oui. le calendrier. On y va. Allez, oui, donc nous sommes le 24, hein, ça on le sait. On y va, on ouvre le petit.
Oui.
Et vous avez remporté, c'est Noël, le très haut de gamme casque Apple, les AirPods Max, le casque Apple, une expérience d'écoute extraordinaire avec un son haute fidélité qui permet la réduction aussi active du bruit, une valeur de 580€. Félicitations, Séverine!
Merci beaucoup!
C'est Noël, c'est Noël, c'est
non,
Noël, Séverine, on est très heureux de passer ce Noël avec vous. Très belle journée à vous, Séverine, non, joyeux Noël.
Merci
de votre fidélité, merci de votre fidélité. Ça a été un plaisir aussi, c'est vrai, chaque jour, de vous couvrir tous de cadeaux avec ce jeu du calendrier de l'Avent. Il est 8h24 sur RMC, dans un instant, je file sur BFM TV et RMC. Avec mon invité à 8h30, c'est Jean-Philippe Tanguy, le député Rassemblement National. Marine Le Pen. Hier, tout sourire à l'Assemblée qui, se tournant vers le Premier ministre, lui a parlé d'une trêve de Noël. Sébastien Lecornu lui a répondu, pourvu que ça dure, cette trêve de Noël, y compris jusqu'en janvier, pour voter un budget ensemble. Je pose la question évidemment à Jean-Philippe Tanguy dans un instant. Il est 8h24, à tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h26.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
Les services de La Poste, toujours perturbés ce matin, même si le groupe assure qu'elle a perdu en intensité. La cyberattaque de lundi est toujours en cours et on en connaît désormais les responsables, puisqu'elle a été revendiquée hier soir par des hackers pro-russes. Leur nom, No Name 057, un groupe de cybercriminels qui n'en est pas à son coup d'essai. La paralysie à La Poste qui touche à sa fin est celle du pays tout entier qui s'éloigne grâce à la loi spéciale définitivement adoptée par le Parlement hier soir. C'est ce texte qui va permettre d'assurer le financement de l'État en attendant le vote du budget dont les discussions reprendront en janvier. Et on revient sur ce groupe de cybercriminels qui a revendiqué la cyberattaque à La Poste, No Name 057. C'est son nom, Ameline Lafchin.
Oui, No Name 057 a depuis sa création, juste après l'invasion de la Russie en Ukraine, multiplié les cyberattaques. En France, on en compte plus de 2000 en 2 ans.
Ils ont attaqué tout ce qu'ils pouvaient.
Damien Bancal est spécialiste en cyberintelligence.
On peut parler de mairie, on peut parler de département, on peut parler aussi d'entreprise. Pourquoi ils attaquent telle ou telle entreprise? L'important, c'est pour eux de faire parler d'eux.
Car ces pirates informatiques ne s'intéressent pas aux données, mais aux messages que ces attaques peuvent véhiculer. À chaque attaque, un objectif clair et assumé, servir les intérêts du Kremlin. Et pour cela, un même mode opératoire, les attaques en déni de service, aussi appelées DDoS, ultra efficaces pour saturer et paralyser un site. Alors si la revendication de No Name dans la cyberattaque contre La Poste reste à authentifier, selon une source gouvernementale, le mode opératoire rend crédible leur implication.
Et notez que désormais, c'est la DGSI qui est en charge de cette enquête. Les agriculteurs s'apprêtent à passer les les fêtes de Noël sur les barrages et ce, malgré le rendez-vous de leur syndicat hier à l'Élysée. Ils ont été reçus par Emmanuel Macron, mais ça n'a pas suffi à calmer leur colère. C'est ce que disait ce matin le porte-parole de la Confédération paysanne, Stéphane Gallet, sur RMC.
J'ai eu vraiment le sentiment d'une déconnexion dans notre dialogue, en fait. Je pense que c'est un peu ça le drame. Il ressent pas, en fait, la réalité des paysans, des paysannes, le désespoir aussi. Parce que en fait, on n'a pas envie, nous tous et toutes, de passer le Noël sur un rond-point. Si on le fait, c'est qu'il y a un vrai message de désespoir, de volonté de changement. Et j'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas entendu ça, parce que en fait, on n'obtient rien. Donc la pression, il faut qu'on continue à la mettre, en fait. Ils ont un peu peur, là, j'ai le sentiment du fait qu'on reste dans les rues et que ça s'accélère. Ben, on va rester dans les rues et on va faire en sorte que ça s'accélère.
Fin d'année compliquée aussi pour Airbus, qui vient de subir un nouvel incident sur l'un de ses A320 après un problème moteur samedi dernier sur un vol Paris-Ajaccio. Ce sont cette fois les passagers du vol Vueling entre Paris et Ibiza qui ont eu une grosse frayeur. L'appareil a dû atterrir en urgence hier à Clermont-Ferrand. Eux vont pouvoir souffler, ce sont les habitants de l'Hérault dont le département est sorti de la vigilance rouge ce matin. Et c'est aujourd'hui que va démarrer et se poursuivre la décrue. Il faudra composer avec le froid qui frappe tout le pays. Météo France a déjà placé la Drôme et l'Ardèche en alerte orange, neige, verglas et les températures vont fortement chuter. On s'apprête d'ailleurs à vivre le Noël le plus froid jamais enregistré depuis 15 ans.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, mon invité, c'est le député RN Jean-Philippe Tanguy. Loi spéciale adoptée à l'unanimité hier. Marine Le Pen a parlé d'une trêve de Noël. Mais est-ce que ça durera jusqu'à une adoption du budget en janvier? J'interroge donc tout de suite Jean-Philippe Tanguy sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h31 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour Madame de Malherbe.
Vous êtes député RN de la Somme. Vous êtes membre de la commission des finances. Tiens, vous étiez même dans la commission mixte paritaire, absolument, la fameuse qui a explosé en vol et le budget avec. Mais tout de même, hier, un moment presque de grâce à l'Assemblée, un vote unanime pour une fois. Vote unanime de la loi spéciale, donc à l'Assemblée nationale hier soir. Cette loi spéciale qui permet à la France de continuer à tourner au moins le temps d'attendre un budget. Marine Le Pen a décrété une sorte de trêve de Noël, elle l'a dit en s'adressant au Premier ministre, et Sébastien Lecornu lui a d'ailleurs répondu en souriant, en espérant, dit-il, que cette trêve se poursuive jusqu'en janvier pour pouvoir adopter un budget. Chiche ?
Écoutez, Monsieur Lecornu a fait un peu de politique sur la déclaration de Marine Le Pen, qui était avant tout pour remercier tous les Françaises et toutes les tous les Français et toutes les Françaises, pardon, qui travaillent aussi en ce jour de Noël, les soignants, nos policiers, nos gendarmes, tous ceux qui assurent nos sécurités, tous ceux qui nous transportent pour aller vers nos familles. C'était un hommage aussi à cette France qui ne va pas profiter de sa famille, qui ne va pas profiter de ses proches pour s'occuper de nous. Et c'est vrai que ça concerne un petit peu le monde politique, qui cette année n'a pas donné une très belle image de nous-mêmes, parce qu'on se rend bien compte que les promesses qui avaient été faites aux Françaises et aux Français aux dernières élections, à savoir ne donnez pas le pouvoir au Rassemblement National et puis on va s'arranger, on se rend bien compte que tout ce petit monde n'arrive pas à s'arranger.
Oui, mais
et
vous-même, vous étiez dans la bataille politique. Enfin.
Ah ben absolument, mais parce qu'on porte des idées. Tout le monde était contre nous. Bon, il se trouve que par acquis de conscience, j'ai regardé la soirée électorale des élections législatives de 2024.
Vous vous avez re-regardé?
Oui, j'ai regardé un peu par acquis de conscience.
Vous faites ça de temps en temps, vous re-regardez
dans mes soirées un peu de solitude.
D'accord. Non,
pour revoir si parfois je ne vis pas dans un monde parallèle, parce que vous recevez beaucoup de femmes et d'hommes politiques, ils ont tendance à se reconstruire un monde parallèle. Donc je suis allé revoir ce qui s'est dépassé ce soir-là, et puis ils étaient tous, main sur le cœur, on a battu le Rassemblement National, Jordan Bardella n'est pas Premier ministre, mais vous allez voir, on a entendu le message, on va se mettre d'accord, on va résoudre les problèmes. Bah, écoutez, on est 2 ans après, et cet échec du budget, c'est l'échec du système. Ce sont des gens, on l'a vu notamment au Sénat. Le Sénat n'a pas réussi à baisser les dépenses publiques. Le Sénat a encore aggravé le déficit public de 10 milliards d'euros, comme ils l'ont fait sur la sécurité sociale. Et c'est facile d'endormir tout le monde avec de la dette, hein, vous savez, Madame de Malherbe. Ça fait 50 ans qu'ils font ça. La dette, ça se voit pas à court terme. Voilà, ça passe. Les gens se disent, parce qu'ils sont fatigués, qu'ils ont autre chose à faire dans leur vie. Bon, bah, c'est pas terrible, mais on va faire avec. Et puis, la dette, là, depuis 3 trimestres, elle a augmenté de 180 milliards. Donc 180 milliards à 4%, bah, je vous laisse faire le calcul, ça fait 6 milliards, plus de 6 milliards d'intérêts. Et qui est-ce qui va payer les intérêts? Qui est-ce qui va payer la dette? Eh bah, ben, c'est ceux qui travaillent, ce sont les retraités, c'est pas les hommes politiques. Donc en fait, ce système, si vous voulez, qui endort, voilà, qui qui fait le l'édredon. Voilà, c'est l'édredon avec la grosse dette bien dodue. Et ben à la fin, malheureusement, c'est les Français qui payent. Et je vois bien que la question de la dette et de l'endettement public, il passe un peu au deuxième plan.
Vous pouvez quand même reconnaître au moins à François Bayrou d'avoir considérablement parlé de cette dette.
Exactement. C'était exactement ça, Madame de Malherbe. C'est qu'alors qu'on a eu 6 mois quand même sur ce thème-là, finalement, comment signer la séquence politique sans Monsieur Bayrou? Certes, on lui souhaite bon rétablissement. Il paraît qu'il a eu une grippe assez sévère. On lui souhaite bon rétablissement avec ses proches. Ça se finit par plus de dettes, plus d'endettement. Et les Républicains de Monsieur Retailleau, vous avez quand même reçu beaucoup Monsieur Retailleau depuis 2 ans. Toujours, il vous explique qu'il va baisser la dépense publique. Il a eu le pouvoir pendant 2 semaines de baisser la dépense publique. Il l'a pas fait. C'est pas une attaque du Rassemblement National. C'est pas une interprétation de ma part.
Il a eu le pouvoir un peu plus longtemps que 2 semaines.
Non, mais sur le budget, le Sénat, je ne l'ai pas été clair. Sur le Sénat, il aurait pu baisser la dépense publique. Parce qu'on parle de quoi?
Alors attendez, parce que là, vous avez dit plein de trucs. Jean-Philippe Tanguy. Non, vous avez dit plein de trucs. Je sens que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais on va prendre les choses petit à petit. D'abord, sur la situation au moment où on se parle. Ce budget, il a donc été rejeté. Vous nous raconterez dans un instant, d'ailleurs, comment ça s'est passé derrière les portes de la commission mixte paritaire.
Pas glorieux.
Mais il y a quand même cette loi spéciale. Certains disent cette loi spéciale va nous coûter une fortune. D'autres disent au contraire, si ça dure pas longtemps, et c'était le cas de Philippe Juvin, il disait au fond, rapporteur du budget, c'est pas non plus une catastrophe pour le budget de la France si ça dure pas trop longtemps. La question c'est, est-ce qu'il y aura un budget en janvier? Est-ce que vous estimez, vous, qu'il faut un budget en janvier?
Qu'il faille un budget, oui, bien sûr qu'il faut un budget. Si c'est le budget qu'on nous propose, c'est une catastrophe, parce que concrètement c'est quoi? C'est 19 milliards de hausse d'impôts. Il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont circulé. C'est vrai que les débats budgétaires, c'est compliqué à suivre parce que on est dans notre petit monde, politique, très technique, où on vit notre petite vie, et il y a des choses qui sortent de l'extérieur. On a l'impression qu'il y a plein d'impôts d'un coup qui sont votés, alors que l'essentiel est théorique et très bidon.
Donc à la fin, vous avez fait le calcul et vous considérez qu'il y a 19 milliards.
C'est pas mon calcul, c'est le texte qui est déposé par le gouvernement. Vous regardez le tableau de la hausse des impôts, il y a 19 milliards de hausse d'impôts qu'on appelle des recettes fiscales, et puis il y a 5 milliards encore en plus qu'on appelle des recettes non fiscales. Donc c'est 24 milliards en plus. Ce qui est d'ailleurs exactement, et c'est là où on voit que c'est Bercy qui contrôle tout, la hausse d'impôts qu'on a eu en 2025. Parce qu'au milieu du budget, il y a eu ce qu'on appelle la loi de fin de gestion. C'est encore un terme technique. Et ils ont voté quoi? Ils ont acté qu'en 2025, l'ensemble de la baisse très limitée du déficit a été des hausses d'impôts. C'est ce que dit d'ailleurs
la Cour des comptes. Budget vous accepteriez?
On accepterait une baisse de la fiscalité qui est gagée sur une baisse des dépenses. C'est quand même pas compliqué, parce que vous savez, il y a 57% de la richesse des Français qui est en dépenses publiques. Donc, on se rend compte, ça fait une masse de plus de 1500 milliards d'euros. Et là, ils n'arrivent pas à trouver 10 milliards d'euros. Bon, écoutez, tout ça n'est pas sérieux. On voit bien qu'en fait, c'est un système qui est prisonnier de lui-même, mis en laisse, il faut bien le dire, par du clientélisme, par une forme de corruption passive. Vous parlez assez régulièrement sur vos antennes du prix des marchés publics, du fameux catalogue où on achète des biens très chers.
Des commandes publiques où effectivement on achète la moindre machine à café ou le moindre fauteuil de bureau plus cher que si on l'achetait sur le marché.
20%, c'est quand même considérable. Bon, si votre chaîne était gérée comme ça ou votre famille, vous seriez sur la paille depuis longtemps. Donc tout ça n'est pas sérieux.
Oui, mais ça, tous les individus le disent. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple qui m'a frappé ces derniers jours. Ma prime rénov, puisqu'il n'y a pas de budget, l'agence qui s'occupe de gérer ma prime rénov ne peut pas fonctionner tant qu'il n'y a pas de budget. Donc, il n'y a pas de ma prime rénov qui est à nouveau suspendue à partir du 1er janvier. Et vous avez tout le monde du bâtiment, les artisans, les patrons de ces entreprises qui crient au scandale, qui disent c'est une catastrophe, on va s'écrouler. Ça veut quand même dire que quand vous dites le système, c'est y compris chaque individu, chaque travailleur, chaque ouvrier du bâtiment qui dit qu'il est désormais dépendant de cette dépense publique. Vous, au pouvoir, vous diriez aux artisans, aux commerçants, écoutez, on arrête vos aides?
On s'est engagé à arrêter ma prime rénov.
C'est fini pour vous. Vous ne la remettriez pas?
On enlève ce machin très technocratique qui est un nid à fraude. Il y a tous les rapports de la Cour des comptes là-dessus sont très clairs. C'est un nid à fraude qui fonctionne pas. En gros, quand vous mettez 2 euros d'aide publique, il n'y a qu'un euro qui est vraiment utile pour la rénovation thermique et pour ces ouvriers du bâtiment. Donc, on a proposé avec Marine Le Pen et Jordan Bardella ce qu'on appelle 100% rénov. C'est un taux après, à taux zéro, un prêt vert, beaucoup plus simple, sans bureaucratie.
Oui, c'est beaucoup plus simple, mais ça veut dire que vous aussi, vous leur dites pas débrouillez-vous tout seul. Vous continuez à leur dire, on va vous aider, on va vous accompagner, oui, on va avoir une dépendance à la dette.
Non, mais il y a des mécanismes qui fonctionnent. Or, ce mécanisme, il peut rapporter de l'argent. Alors là, on n'a pas le temps de l'expliquer, mais c'est un système qui permettra en fait de rapporter de l'argent. Tout système n'est pas voué à coûter de l'argent public. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'on a donné ce système aussi de ma prime rénov? C'est qu'on met tellement, l'État met tellement de normes de bureaucratie, de contraintes, que ils sont toujours dans la compensation en fait de la bureaucratie par un petit billet, par un chèque. Regardez les agriculteurs, pourquoi ils en peuvent plus? C'est qu'on dit on va arracher vos vignes, on vous fait un chèque. On va tuer vos bêtes, on vous fait un chèque. On vous empêche de cultiver de la betterave ou des noisettes, on vous fait un chèque. Les Françaises et les Français, je crois, en tout cas la France du travail, on peut plus de ce système. On n'a pas déjà, moralement, c'est très condamnable. Et en plus, les gens ne travaillent pas pour avoir un chèque de l'État. Ils le paient d'une façon ou d'une autre par leurs impôts de toute façon. Et surtout, on n'a plus cet argent. Mais donc en fait, on est sur un système complètement dingue où on détruit de la richesse. On détruit de la richesse.
Mais les agriculteurs,
et,
par exemple.
Jean-Philippe, on compense Tanguy. La richesse par de la dette. Ça fonctionne plus.
Jean-Philippe Tanguy, les agriculteurs. Alors, il y en a quelques-uns qui restent à nouveau, qui restent encore sur l'autoroute, notamment à 64. Ils ont été reçus par Emmanuel Macron hier. La plupart, et notamment la Confédération paysanne, ne sont pas convaincus et appellent à maintenir les blocages. Vous, d'un côté, vous dites, on va réduire considérablement, voire supprimer la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Mais dans ces cas-là, qui va payer les agriculteurs?
Oh bah c'est simple, on peut le payer nous-mêmes, puisqu'on va donner 30 cette année, ça augmente de 6 milliards, et on reçoit entre 12 et 15. Donc il y a 15 milliards nets. Hein. Si vous voulez, vraiment, c'est comme
les agriculteurs, ils remercient la PAC.
Les agriculteurs, ils font avec le système qu'ils ont. Mais les agriculteurs savent très bien que on donne 2 euros à l'Europe, elle nous en rend 1. Voilà. Mais c'est mathématique. Je vous donne ma montre, vous me donnez l'heure, quoi. Voilà, c'est ça l'Union européenne aujourd'hui. C'est complètement déconnant. Ça ne fonctionne pas. Et en plus, pareil, on compense des contraintes. Parce que cette PAC, vous savez très bien que les agriculteurs le disent aussi, c'est plus ce que c'était. Avant, c'était une incitation à produire. On incitait les agriculteurs à produire en France, en Europe. Maintenant, dans la PAC, il y a plein de primes pour compenser ces politiques écologistes punitives, absurdes. On les empêche de cultiver des terres, on les paye. On leur dit de réduire leur cheptel, on les paye. C'est exactement la logique que je dénonçais tout à l'heure, Madame de Blaret. Et c'est pour ça que l'Europe décroche. C'est pour ça que l'Europe décroche. Il n'y a pas besoin de chercher des trucs très compliqués. On est en décroissance. C'est-à-dire que nous avons des politiques bureaucratiques ou d'écologie punitive qui incitent à produire moins.
Alors, techniquement, on n'est pas en décroissance, Jean-Philippe Tanguy. En termes économiques, la France a encore enregistré une forme de croissance économique.
Mais ça, c'est du pipeau. Vous voyez bien que ce sont des chiffres qui cachent une autre réalité. En fait, il faut prendre le PIB par habitant. C'est la richesse qu'on crée par habitant, parce que naturellement, on a des immigrés qui arrivent, on fait encore des enfants, même si la crise de la natalité est là. Donc mécaniquement, le PIB, il augmente un peu. Mais si vous prenez la richesse par habitant, on est complètement dégringolé. La France, en termes de PIB par habitant, je crois, est devenue la 26e puissance du monde, alors qu'on était dans les 10 premiers il y a encore 20 ans.
Donc pour vous, la France va mal?
Mais bien sûr qu'elle va mal. Mais vous voyez, pourquoi on n'arrive pas, par exemple, à financer les systèmes de retraite, tous les systèmes sociaux? C'est qu'on produit plus par habitant assez de richesse pour suivre le coût de la hausse de la santé, par exemple.
Est-ce qu'il vaut mieux rester sur cette loi spéciale ou adopter un budget?
Là, il faut mieux rester sur cette loi spéciale si c'est pour avoir le budget qu'on nous propose.
Y compris toute l'année?
Je préfère ça que ce qu'ils ont fait avec le PL, avec la sécurité sociale. Parce que concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'ils se sont mis d'accord, c'est formidable. Bah oui, le déficit de la sécurité sociale, il est passé de 16 à 24 milliards. Ils ont augmenté le déficit d'un coup de 50%. Bah, c'est facile de se mettre d'accord là-dessus. Hein. Tout le monde peut se mettre d'accord en faisant payer les autres.
Alors quand vous preniez 16, c'est une question aussi de chiffres. Quand vous preniez 16 et que là vous prenez 24, vous prenez les deux chiffres effectivement extrêmes. Dans le 24, vous rajoutez y compris la contribution de l'État qui ne participe pas officiellement aux chiffres du déficit. Oui.
Mais ça, c'est comptable, Madame de Malheur. À la fin, c'est qui paye? C'est les contribuables. Ça peut être l'État, la sécurité sociale. C'est un jeu d'écriture. C'est bien 24 milliards d'impayés. Voilà, c'est tout. Voilà. Et ça, il faut bien
donc
les compenser.
Donc pour vous, s'il y a un 49-3, il y aura censure. S'il y a vote, vous voterez contre. Quoi qu'il arrive, vous ne participerez pas à l'adoption du futur budget.
Mais ils peuvent tout à fait faire des économies. Tout ça est encore possible. Des économies sur la submersion migratoire, sur le millefeuille territorial. Pourquoi, par exemple, on n'arrive pas à faire des économies sur le millefeuille territorial? Faut quand même dire la vérité. Il y a des élections municipales, là, qui arrivent, et des élections sénatoriales. Bon, bah, la réalité, vous me parlez de ce qui s'est passé en CMP. Bon, en CMP, en commission mixte paritaire, où il y a les sénateurs, les députés, eh bien, les sénateurs, je vais vous dire, étaient pires que les députés. Bah, parfois, il m'arrive d'avoir honte de l'Assemblée nationale. Alors, le Sénat.
Alors, attendez. Là, Jean-Philippe Tanguy, vous êtes en train de raconter, et il faut que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Ce moment qui, effectivement, a fini par faire exploser le budget. La commission mixte paritaire, c'est ce moment où quelques députés, quelques sénateurs se mettent ensemble dans un huis clos, en quelque sorte, pour tenter de trouver un texte commun. Faute de quoi, il n'y a pas de budget, ou alors ça repart à l'Assemblée, mais là, nous n'avions pas le temps, étant donné que le calendrier était trop restreint. Jean-Philippe Tanguy, il a suffi de quelques minutes, quoi. Ça n'a pas duré. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, ils ont acté qu'ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils arrivaient. Les socialistes voulaient plus d'impôts, les sénateurs voulaient baisser les dépenses, mais on ne sait pas où. Et surtout, les sénateurs voulaient préserver les crédits des collectivités territoriales. Et les élections sénatoriales, c'est en septembre. Ben, c'est un mot, ça s'appelle de l'achat de voix.
Pour vous, les sénateurs ont acheté.
Ils sont en achat de voix.
Ils sont dans un clientélisme.
Mais c'est quelques centaines, voire quelques milliers d'électeurs par département, les sénatoriales. Donc quand vous votez des milliards d'euros de subventions qui vont directement à des élus qui sont en cours de réélection, en espérant que si vous aidez les élus municipaux des agglomérations à se faire réélire, eh bien après ils vont voter pour vous. Ça s'appelle comment? Moi, si vous voulez, j'en ai aussi assez qu'on soit toujours dans le politiquement correct. Ah bah non, faut pas dire ça, c'est pas correct, les pauvres sénateurs. C'est pas des pauvres sénateurs. Quand vous versez des milliards d'euros payés par le contribuable, par la dette, à des gens, des grands électeurs qui après vont vous réélire, ça s'appelle de l'achat de voix.
Ça n'est pas public, hein, la commission mixte paritaire. Ça se passe effectivement dans une forme de huis clos. Jean-Philippe Tanguy, Philippe Juvin ici même et Sébastien Lecornu à nouveau hier ont considéré que si ça avait échoué, c'était simplement parce qu'il manquait du temps. Mais ce que vous êtes en train de nous raconter là, c'est que c'était pas une question de temps.
Oh bah si, parce qu'ils auraient pu se mettre d'accord sur le déficit.
Ils auraient quand même fini par se mettre d'accord.
Ah oui, non, je pense que Philippe Juvin avait raison. D'ailleurs, il avait aussi raison sur le coût de la loi spéciale. Là, moi, ça fait un an, y compris sur votre antenne, que je dis que le fait que la loi spéciale avait coûté 12 milliards d'euros, c'était pas vrai. Il a reconnu que c'était faux.
Il a pas, d'ailleurs, il avait jamais dit que ça avait coûté. C'est pas une question de reconnaître.
Si, parce qu'il a accès à tous les documents budgétaires que moi.
Il estime effectivement, calcul à l'appui, que lorsque un certain nombre de ministres avaient dit que ça avait coûté 12 milliards la loi spéciale et que donc il fallait absolument un budget pour ne pas avoir à payer cet argent. Philippe Juvin dit non, en réalité, il n'y a pas ce chiffre-là.
Voilà, donc c'est quand même beaucoup de mensonges de la part du gouvernement. Et là, je pense effectivement qu'ils n'ont pas voulu avoir le temps pour continuer cette comédie. Parce que moi, je pense depuis le début qu'en fait, M. Macron et M. Lecornu font une comédie pour gagner du temps sur ce budget, pour épuiser les Françaises et les Français. D'ailleurs, je suis obligé de reconnaître que ça marche un peu. C'est vrai que les gens en ont marre. Ils disent, écoutez, nous, on a nos problèmes, on a nos vies, on a nos familles, on a nos métiers, on n'en peut plus de ces histoires budgétaires, ça fait des mois et des mois, passons à autre chose. Donc en fait, ils jouent, il faut bien le dire, sur l'épuisement. Et je pense que là, effectivement, le fait qu'ils aient pas donné deux jours de plus à Philippe Juvin, rapporteur général du budget, et au Sénat, pour se mettre d'accord sur un chèque encore à faire, c'était pas compliqué, c'était volontaire. Moi, je pense qu'ils veulent toujours perdre du temps pour montrer que le Parlement n'est pas responsable. Il n'y a que le gouvernement qui est capable de faire des choses. D'ailleurs, on verra comment. Est-ce que ce sera le retour du 49-3? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera les ordonnances? Il n'y a pas eu de vote. Donc, il peut encore y avoir ces ordonnances. Hein, c'est-à-dire que le gouvernement applique le budget.
Si on en croit Sébastien Lecornu hier, il a l'air de préférer, évidemment, que tout le monde se mette d'accord et que ce budget soit voté de manière, j'allais dire, normale, selon la procédure normale. Bien. Qu'il n'y ait pas de 49-3.
Vous entendez
quand même cette volonté au minimum.
On verra, c'est sûr. Mais si ça se fait au détriment du déficit et de l'endettement, une fois plus, nous, on sera
pas d'accord. S'il y a 49-3, vous censurerez?
Ah bah oui, bah évidemment. Mais on s'en sort pas pour censurer. C'est que la situation est catastrophique. Il y a vraiment un phénomène d'emballement de la dette. Et comme il y a un phénomène d'emballement de la dette, il y a un phénomène d'emballement des intérêts de la dette, et c'est les Françaises et les Français qui paient. On peut pas, c'est trop facile, vous savez, c'est facile de venir ici, dire on s'est mis d'accord, et c'est les Français qui paieront dans 5, 10, 20 ans. C'est pas possible de faire comme ça, puis de laisser passer quand même aussi des gros mensonges. Quand même, quand on voit Monsieur Pierre Lescure qui hier...
Le ministre de l'économie qui était à mon micro.
...est pris en flagrant délit de mensonge sur la fameuse taxe des petits colis. Et qu'il se passe le phénomène que le Rassemblement national avait annoncé depuis le début, à savoir que cette taxe sera contournée par des moyens logistiques et qu'il y a un entrepôt en Pologne qui s'ouvre.
Alors,
qui
est vous utilisez le mot mensonge. On va être très précis, Jean-Philippe Tanguy, puisque, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai interrogé et que, en effet, je l'ai interrogé sur l'obsolescence déjà de cette taxe sur les petits colis, puisque la taxe, alors, il y a la taxe européenne qui, elle, devrait s'appliquer. En revanche, la taxe française, à proprement parler, ne s'appliquera pas, et c'est ce que je lui faisais remarquer, puisque Chine a déjà inauguré cette semaine un très vaste entrepôt à Varsovie, dans lequel les colis feront escale. Et comme ils feront escale à cet endroit-là, ils ne viendront plus officiellement de Chine, mais ils viendront de Pologne. Exactement. Et donc, il n'y aura pas de taxes.
Ben oui,
et deuxième étage de la fusée,
on avait dit.
Il est quand même possible également qu'ils n'aient pas à payer la taxe européenne, puisqu'ils vont, semble-t-il, les faire venir dans un container au lieu de les faire venir
colis.
Un par un. Ça deviendra un grand colis officiellement. Et si ça devient un grand colis, il n'y aura pas non plus la fameuse taxe des 3 euros européenne qui devrait s'appliquer au 1er juillet. Donc, en effet... C'est contourné. C'est pas pour autant un mensonge.
Mais si.
C'est-à-dire que la taxe, elle existe. C'est juste qu'elle sera pas appliquée.
Mais si, Madame de Malherbe, parce qu'on a eu ces discussions au Parlement. Au Parlement, il se passe des choses. Marine Le Pen et votre serviteur ont exactement dit cela au ministre. Et on nous a répondu qu'on était des populistes, qu'on comprenait rien, qu'ils étaient évidemment supérieurement intelligents à nous, alors que c'est une évidence, c'était tellement facile à contourner cette taxe petit colis, c'est exactement ce qu'on
leur a dit. Mais du coup, on fait quoi face à Chine ?
Eh ben, on met des vraies taxes douanières, des vraies. Regardez ce qui s'est passé là, on est des rétorsions sur le porc, sur les produits laitiers de la Chine. Tout le monde sait que c'est bidon. Et l'Union européenne n'est capable de se défendre qu'en 18 mois, en suivant les règles de l'OMC. C'est fini tout ça. Voilà. Tout ce baratin qu'on a entendu.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut supprimer les règles? Les règles du jeu?
Mais il faut prendre les règles telles qu'elles sont dans le monde réel. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est, il faut le dire, des règles assez violentes, assez brutales, où des États-empires imposent leurs règles. Donc il faut que l'Union européenne arrête d'être, comment dire, le pigeon de tout ce petit monde et qu'on réponde la force par la force et qu'on mette des vraies bannières douanières, des quotas textiles et qu'on reprotège notre industrie, que ce soit l'industrie lourde, l'agriculture ou la petite industrie type textile. On est en train d'être submergé par la Chine qui a passé les 1000 milliards d'excédents. Je ne sais pas si on se rend compte. La Chine a 1000 milliards d'excédents commerciaux, en particulier sur notre dos. Et aussi, on a eu les chiffres de la pollution. Jamais la Chine n'a brûlé autant de charbon. Voilà, c'est-à-dire que nous, pendant qu'on est en train de se désarmer, d'affaiblir notre industrie, notre agriculture, d'être des pigeons, bah la Chine, elle avance, elle défend ses intérêts, mais à des niveaux stratosphériques.
Jean-Philippe Tanguy, attaque de la Poste, revendiquée par un groupe de hackers qui seraient des hackers pro-russes. Est-ce que c'est une forme de déclaration de guerre?
Bah, guerre, non, parce qu'il faut quand même faire attention aux mots, puisque la vraie guerre physique avec des centaines de morts.
À une époque, on parlait d'une guerre froide sur une menace. Oui, là, il y a des choses.
Même pendant
qui
la guerre froide, excusez-moi, Madame de Malherbe, pendant la guerre froide, il y a des pays de l'Est, la Hongrie, qui ont connu des répressions extrêmement lourdes. Les pays étaient occupés par les Soviétiques, il y avait quand même des morts, il y avait de la répression, il y avait des gens qui souffraient sous la guerre froide, et il y a eu plusieurs conflits armés. Là, il y a un conflit armé en Ukraine, dont l'Ukraine est victime, avec plusieurs centaines de morts innocents par jour. Donc la guerre, elle est là. Par contre, est-ce qu'il y a des actions très hostiles, très offensives, agressives de la Russie sur les intérêts français? Attaque de la Poste, attaque de banques, attaque d'hôpitaux, rançonnage, cyber-rançonnage. Oui, malheureusement, ça existe et on en est de plus en plus victimes. Et la France se défend, il faut le dire, assez bien. Vous voyez, je suis très critique sur beaucoup de choses du gouvernement, mais sur la riposte, entre guillemets, numérique, la cybersécurité, l'État français essaie quand même de se défendre et progresse sur ce sujet-là.
Est-ce que vous craignez pour les élections municipales qu'il puisse y avoir une ingérence étrangère?
Non, car en fait, on a un système démocratique qui se défend bien. Le système médiatique français se défend. Les Français sont éduqués. C'est un peuple éduqué, averti, politique, qui sait très bien faire la différence entre les fausses nouvelles, les arnaques et les vraies informations.
Vous ne croyez pas du tout qu'il y ait une naïveté face aux fake news?
Non, on avait fait une commission d'enquête, donc j'étais président, sur les ingérences étrangères. Il y avait des vrais problèmes de rançonnage, de cyber-rançonnage, d'attaque, ça c'était vrai. Par contre, sur les informations, la démocratie française répond bien parce que notre peuple, en fait, est autonome. Voilà, pas besoin d'un État nounou qui vienne lui dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Les Françaises et les Français, avec les journalistes, il faut le dire, font un travail d'information, de défense de la démocratie qui fonctionne. Voilà, mais pourquoi toujours dire que tout fonctionne mal? Moi, je crois que ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, c'est toujours assez grossier. On voit des choses. Moi, je suis victime de fake news. Vous allez voir mes comptes des réseaux sociaux. Il y a des fausses vidéos sur moi qui tournent, des insultes. Je m'en fiche, ça m'empêche pas de dormir. Mais bon, on est tous victimes de ça. Bon, je vois bien que les gens sur le terrain, dans ma circonscription, et je les salue pour Noël, ils y croient pas. Voilà, les gens font bien la différence entre ce qui est pipo et ce qui l'est pas.
Il y a des choses qui fonctionnent. Vous le dites, et c'est peut-être parce que c'est Noël. C'est peut-être finalement une façon pour vous de respecter cette fameuse trêve de Noël. Merci Jean-Philippe Tanguy d'avoir répondu à mes questions, député RN de la Somme. Joyeux Noël à vous et à tous ceux qui nous écoutent. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.
Restez bien sur RMC. Dans un instant, on vous a gardé le meilleur de Nicolas Cantelou.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Cantelou.
Le meilleur de Nicolas Cantelou, c'est tout de suite. Souvenez-vous, Jean-Louis Borloo était l'invité du Face à Face et il était resté face à Cantelou.
J'ai mis 1h15 pour trouver votre studio. On me dit, tu vas chez RMC. Moi, j'y allais serein. Hein. Mais pas du tout chez vous, c'est un escape game. Hein. C'est un bordel sans nom, tu sais pas où tu vas. T'as RMC, la radio, ok, t'es rassuré, mais t'as aussi RMC Story. T'as RMC Sport, RMC Live, RMC Découverte. Et attends, pour compliquer l'histoire, le truc, Le truc est quand même génial, il y a quand même des intelligents dans votre truc. C'est qu'RMC est à la même adresse que BFM. Donc là, du coup, t'es dans la même boutique. Et comme c'était trop simple, t'as BFM Télé, BFM Radio. Non, mais c'est un bordel. T'as BFM Business, BFM Paris, BFM Île-de-France, BFM Les Locales. T'as un couloir, des studios partout, à gauche, à droite, t'as le 4, le 5, le 3, le 2, le 1. T'as la Française des Jeux, voilà. T'es pas dans BFM. Mais bon, une fois que t'as trouvé la station, oui. Tu te dis, t'es content, la radio, t'es tranquille. Ben non, parce que toutes les radios aujourd'hui, elles sont filmées. Donc tu sais plus si les gens, ils te regardent à la radio ou s'ils t'écoutent juste à la télé. Et puis c'est géré par qui? Tu sais pas. T'as un directeur d'antenne.
Tu fais sortir mon joker.
T'as un directeur d'antenne, t'as le directeur des rédactions, t'as un directeur général, t'as un président directeur général. Déjà, général, c'est du beau, mais t'as en plus, il est directeur général. Tu vois sa piche de paye, tu pleures. T'as des directeurs de partout. Mais c'est une ruche, sauf que c'est toutes les abeilles, c'est des reines.
Donc, faut un big bang.
Faut un big bang. Mais je vais te dire une chose, c'est pas fini, ça, parce que ça appartient à un actionnaire.
Ah là là.
Oh, dont le gars, c'est pas le métier. Le gars, il est marin, il est sur les bateaux, le gars, c'est Captain Igloo. Oh. Tu penses bien qu'il y a autre chose à foutre que d'écouter Julien Cazard. Donc le mec est malin, il a dit à sa femme, écoute, chérie, ça te dirait de gérer les clowns? Et elle a dit oui. Du coup, c'est la femme du Captain Igloo qui gère les clowns. Non mais arrêtez de ricaner là, bon fond, parce que Captain Igloo s'est filmé, il vous voit, c'est le gars qui dit.
RMC, le super Moscato Show.
Les gars, on repart en mastic, c'est parti, le super Moscato Show. Alors, je t'explique la situation. De côté, t'as 577 députés. On a levé les virgules, ça fait plus que 500. De l'autre, t'as Macron. Son équipe, c'est lui. Il est tout seul. Il est tout seul, le gosse. Il n'y a plus personne. Tous les rats ont quitté le navire. Les Philippe, les Attal. Il n'y a qu'un gars qui reste, le gosse. Le connu, le moine soldat, putain, il est plus moine que soldat, le gosse, putain! Et là, le seul mec, il sort sur blessure, fracture du gouvernement, fracassé, le mec.
C'est vrai que c'est déséquilibré, du coup, forcément.
Mais ça hein, fout, Macron. Ça. Macron, il croit, le mec, il est burné, tu vois. T'as le black devant lui, il y va quand même. Mais pourtant, il a sa petite raquette, tu sais, comme l'autre, avec sa tête de pichon, là. C'est Félix le Brun façon le black. Et le mec, il va quand t'as vu mon analyse, j'ai pas écouté Alain Duhamel. Attends, tu mets un short à Duhamel, c'est moi, tout craché. La même rigueur dans l'analyse, oh putain, pas de chaîne.
Merci Nicolas. Nicolas Canteloup qu'on retrouve à tout moment en podcast sur rmc.fr. Dans un instant, les GG. Olivier Truchot, quel est le programme, Olivier?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent pour débattre de l'actualité en direct, comme tous les matins sur RMC, RMC Story. Autour de la table aujourd'hui, et vous bien sûr au 32-16. Donc autour de la table, il y aura Zora Bitan, Antoine Diers, le consultant de Dunkerque, et le cheminot Bruno Poncet. On compte sur vous.